Bâtisseur d'église, présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeré. Bâtisseur d'église, la découverte de figures emblématiques de notre église à travers les siècles.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Lucien.
Bonjour.
Alors nous avions la semaine dernière fini l'émission en faisant une sorte de panorama des pays à l'époque de Léon XIII et nous avons essayé de découvrir la situation dans ces pays et les difficultés que le pape pouvait rencontrer. Alors nous étions arrêtés à l'Espagne.
Oui.
Et c'est de là que nous repartons aujourd'hui.
Eh oui, l'Espagne est dans une situation, comme je le disais, chaotique. Il y a eu des renversements de gouvernement. Alors on passe de gouvernements libéraux, anticléricaux, à des gouvernements archi-conservateurs, ultra-réactionnaires. N'oublions pas que l'Espagne, c'est le dernier pays où l'Inquisition a été un organisme politique, un organisme d'État, jusqu'au début du XIXe siècle. Puis, il y a aussi un clergé très nombreux, même à cette époque, deux fois plus nombreux qu'en France.
Alors, est-ce qu'il était pesant ?
Il était pesant, et il était assez formaliste, sans grande qualité de formation intellectuelle, et puis, je dirais, pérennisant une religion de rite, de routine. De nombreux religieux aussi, des couvents. Et quant aux laïcs espagnols, ben c'est comme en Italie, devant cette situation chaotique, ils avaient été invités à se tenir en dehors. Alors, ou ils se tenaient en dehors, ou ils prenaient parti violemment les uns contre les autres, et finalement, au sein du peuple espagnol, va s'étendre un anarchisme, puisqu'ils sont, ballottés entre toutes sortes de tendances, un anarchisme qui n'est pas seulement passif, mais anti-religieux, et même violemment. Alors, ça sort dans des manifestations diverses, et ça va durer jusqu'à la guerre civile de 1936, et la prise de pouvoir du général Franco.
Là, et Léon XIII, comment il réagit par rapport
alors,
à cette
Léon
situation ?
Alors, Léon XIII, par rapport à l'Espagne, finalement, il n'y a pas... Il n'y a pas d'action particulière. Il y a des gens, mais d'intervention de Rome, pas tellement. Alors, il reste, avant de terminer sur l'Europe, ce qui se passe en Pologne. La Pologne dépend à ce moment-là de la Russie. Elle est matée. Alors il y a une révolte qui éclate contre le tsar en 1863, donc sous Pie IX, mais elle est écrasée par les troupes russes et les autorités russes réagissent violemment. Ils expulsent des religieux, ils emprisonnent ou déportent des prêtres et en Sibérie, hein, c'est une déportation violente. Et puis les processions et pèlerinages si importants en Pologne sont interdits, et la langue russe va détrôner le polonais. Mais là, il n'y a rien de particulier de la part de Léon XIII. Il encourage bien sûr les Polonais, mais il n'y a pas de mesure particulière. Alors, il faudrait parler bien sûr des Pays-Bas aussi, mais je vais plutôt aller outre-Atlantique, Amérique du Nord. Il y a le Canada, qui est un pays où il y a une forte proportion de catholiques. Et le Canada va, après un siècle au cours duquel le protestantisme anglophone a traité comme un mineur le catholicisme francophone, n'oublions pas que c'est une ancienne colonie française acquise par l'Angleterre au XVIIIe siècle. Alors, il y a une expérience qui, ce qu'on appelle le Canada uni, qui dure environ 25 ans, qui permet de dépasser ces antagonismes très forts entre catholiques et protestants canadiens. Alors à partir de ce moment-là, l'Église canadienne connaît une prospérité très grande en hommes, en œuvres, en réalisations diverses. Mais elle est entourée d'un respect excessif de la tradition. On se reporte toujours à l'ancienne période où le Canada était terre catholique. Et ce conservatisme du catholicisme canadien va entraîner, après Vatican II, une espèce d'éclatement, parce que ça ne peut plus tenir la route de cette manière. Et aujourd'hui, bon, il y a une proportion de catholiques importante au Canada, mais il y a aussi une sécularisation particulièrement forte. Aux États-Unis, le catholicisme, qui était très minoritaire au départ, gagne du terrain, en particulier à cause de l'immigration, parce que vont venir aux États-Unis, en particulier des immigrants irlandais. Le nombre d'immigrants irlandais est considérable. Entre 1820 et 1880, il y en a presque 800 000. Et ils font souche. Quand vous pensez, bon, les grands noms de l'Amérique, Kennedy, c'est une famille d'origine irlandaise, et beaucoup d'autres. Mais il y a aussi d'autres qui viennent du Canada, attirés par les États-Unis. Il y en a qui vont arriver d'Europe. Il y a énormément d'Européens qui émigrent, et certains sont catholiques. Et il y en a aussi qui viennent d'Amérique du Sud, du Mexique ou ailleurs. Si bien que la proportion des catholiques aux États-Unis augmente considérablement. Une chose est à dire, c'est que là, il y a eu, à un moment donné, une incompréhension entre Rome et les États-Unis. On va condamner, peut-être à juste titre d'ailleurs, mais un peu avant 1900, un catholicisme de style américain qui ne s'occupe pas beaucoup, disons, du contenu spirituel, mais beaucoup plus des actions, des œuvres. On appelle ça l'américanisme. ça n'a pas dû leur faire plaisir de voir que leur nom était lié à une hérésie. Mais cette condamnation n'a pas eu non plus de conséquences énormes. Il y a un autre continent. Bon, il y a d'abord il y a l'Amérique latine, c'est un sous-continent. Mais là aussi, il y a deux traditions qui s'affrontent. Il y a les oligarchies, les gens qui ont de grandes plantations, qui ont de grandes exploitations, et qui emploient avec une condition qui est souvent de l'esclavage, des pauvres sans secours. Mais dans ces populations pauvres, il y a des prêtres, des religieux qui prennent leur défense. On est là dans les lointains prodromes des questions touchant à la théologie de la libération. Alors, c'est justement en Amérique latine que s'élabore cette théologie qui a un côté très social. Et puis, il y a alors l'Algérie, enfin, je l'ai évoqué à propos du cardinal Lavigerie, mais l'Afrique en général, il y a des missions qui se constituent, qui vont, et que d'ailleurs, paradoxalement, le gouvernement français favorise, parce qu'il ne distingue pas l'apostolat religieux et, je dirais, l'expansion coloniale. Donc, il y a des missions en Afrique, et il va y avoir aussi un continent qui va s'ouvrir timidement au catholicisme, c'est l'Australie, qui est née protestante, mais qui va quand même voir arriver des catholiques. Voilà un peu comment...
Il nous reste quelques secondes. Alors comment Léon XIII, justement, va se positionner dans cette pluralité de pays et de contextes ?
Alors, dans cette pluralité, il aura des positions, j'allais dire, d'une diplomatie intelligente, juste, mais qui n'est pas toujours facile à équilibrer. Je reviendrai la prochaine fois sur la situation particulière de la France, puisque nous allons arriver, juste après la mort de Léon XIII, à la séparation des Églises et de l'État.
Eh bien, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour cette nouvelle aventure. Alors, cette fois, nous irons en France. Merci donc, Lucien. Merci à tous de votre
fidélité. Alors, je vous fais beaucoup voyager, mais bon.
Mais nous sommes là pour justement nous laisser...
On voyage dans le temps et voyager. Dans l'espace.
Merci aussi à Armand. Au revoir à tous et à bientôt.
Bâtisseur d'église, présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeré. Bâtisseur d'église, la découverte de figures emblématiques de notre église à travers les siècles.